Merci de votre soutien aussi, ceux qui soutiennent particulièrement la mission chrétienne pour les pays de l'Est, mais il y a aussi d'autres missions, j'en suis sûr. Il y a aussi beaucoup d'autres continents que les pays de l'Est. Mais je pense que quand vous soutenez les missions, que ce soit ici ou en Afrique, eh bien, je crois que c'est vraiment toute l'Église qui est bénie. Donc, je viens, en fait, j'ai grandi en Valais, à Sion, et puis ensuite de ça, je suis arrivé à Berne, où j'ai rencontré ma femme, qui m'a gardé, puis qui me fait des très bons rösti et des bircher müsli les matins. Et donc, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis à Vorbe. Vorbe, c'est là où se trouve la mission chrétienne pour les pays de l'Est également. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci aussi à ceux qui participent à la récolte de vêtements, qui amènent les vêtements ici dans ce bâtiment. Vous verrez tout à l'heure quelques informations. Mais auparavant, j'avais envie de vous partager une parole qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 1. Et je salue aussi cordialement ceux qui sont à l'antenne. Je crois que c'est là-haut la vidéo. Donc voilà, je vous salue cordialement également au nom de la mission chrétienne pour les pays de l'Est. Donc je vais lire le texte dans Romains 12, 1. Au début, je voulais apporter Romains 12, 1 jusqu'à 3. Puis quand j'ai vu la consistance du verset, j'ai dit non, je vais rester sur un verset, ça suffit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors dans ce verset, Paul s'adresse aux chrétiens romains. C'est l'exhortation d'un père spirituel, un sage conseiller, lui qui sait de quoi est fait l'être humain qui est faible dans sa chair. Il reconnaît lui-même, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais pas, non, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. L'être humain, de nature, ne veut pas se donner soi-même pour les autres. Vous voyez vous-même que depuis enfant, nous sommes conditionnés à rechercher d'abord ses propres intérêts. Nous sommes conditionnés à recevoir plutôt qu'à donner. Ou bien alors, de quoi pourrions-nous en profiter? Alors, comment être un sacrifice vivant? Puisque c'est ça qu'il en est question dans ce verset. Alors, si on continue le texte, on voit, ce sera par les compassions. Donc, ce sera par les compassions que Dieu a mis dans notre cœur. Et non par nos propres forces. Si vous le faites par vos propres forces, ça tiendra pas. Vous tiendrez pas longtemps. Mais si on le fait par les compassions de Dieu, ça tiendra. Et nous serons chemin avec lui et ça, quelque chose qui va grandir. Alors, comment est-ce que ces compassions de Dieu sont en nous? Eh bien, par l'Esprit Saint. Jésus a donné sa vie pour nous, il est monté au ciel et il nous a envoyé son Esprit Saint par son sacrifice. Et à travers l'Esprit Saint, nous pouvons recevoir la bonté, l'amour ou la charité, la joie, la paix, la patience qui nous manque souvent. Et puis la bienveillance et la fidélité. On a parlé de la fidélité tout à l'heure dans un chant de louange. Si Dieu est fidèle et il a mis son esprit en nous, eh bien nous aurons cette fidélité. Vous reconnaissez là tous les fruits de l'esprit qu'on peut voir dans Galates 5, 22. Et puis nous avons aussi reçu également d'autres dons spirituels. Bien sûr, ces qualités ne sont pas toujours en nous, mais c'est un bon signe si nous le reconnaissons qu'elles ne sont pas en nous. Alors nous pouvons le demander à Dieu et qu'il nous les donnera. Et puis dans notre vie ou dans nos vies, nous rencontrons continuellement des femmes et des hommes qui, par leur sacrifice ou leur façon de vivre, nous transmettent ce que c'est le don de soi. Et vous verrez que c'est quelque chose de contagieux. En Moldavie, par exemple, j'ai rencontré Victor, un pasteur qui est responsable d'une église et d'un centre de jour. Eh bien, Victor, il a grandi dans une famille de 11 enfants, il en est le 8e. Et toute la famille est partie aux États-Unis, les parents également, sauf lui, parce que quand il a vu la situation dans le village où il habitait, il a dit « Moi, je ne peux pas partir comme ça, faire ma vie, faire carrière. » Et les autres ici, eh bien, ils sont en train de vraiment d'avoir des situations très difficiles. Il y a beaucoup de faim, de pauvreté, pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Alors, au lieu d'avoir une vie plus tranquille, eh bien, il est resté dans ce village. Eh bien, quand je vois, parce que j'ai été le visiter avec mes collègues, et quand j'ai vu comment il s'investit corps et âme pour améliorer la situation de ses enfants, eh bien, pour moi, il est ce sacrifice vivant dont parle Paul dans Romains 12:1. Et Victor le fait par les compassions de Dieu. Il le fait par conviction. Aujourd'hui, dans le village de Victor, les enfants, souvent des orphelins sociaux, confrontés quotidiennement à l'alcoolisme, à la faim et aux privations et au froid pendant l'hiver, eh bien, ils apprennent à prier, à chanter. Ils apprennent aussi à être assidus à l'école, à faire leurs devoirs. En fait, Victor, sa femme et les bénévoles du centre de jour, ils ont semé une petite graine d'éternité dans ses enfants. Et au début, cette petite graine, eh bien, elle est fragile. Il faut en prendre soin. Et avec un peu de patience, des fois, ça demande beaucoup plus de patience, eh bien, cette petite graine va grandir et il va en devenir quelque chose. Un sacrifice vivant, eh bien, ça transmet la vie. Regardez ce que le pasteur Victor a dit. Il a dit, grâce au ministère parmi les enfants, l'Église n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant. Tous veulent être impliqués dans ce ministère en aidant à la cuisine ou en nettoyant les chambres après les activités des enfants. C'est un miracle. Il dit que c'est un miracle. Quand on a démarré ce projet en 2016, les centres de jour pour enfants, on avait affaire avec les responsables sur place, ils nous ont dit « Vous ne trouverez jamais les bénévoles qu'il faut pour tous ces centres de jour. Vous ne trouverez pas. » On a dit « on y va. » Et vous verrez après qu'est-ce que ça a donné. Un sacrifice saint et agréable à Dieu. La pureté du sacrifice. Saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire consacré, mis à part pour quelque chose de spécial. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir un sacrifice sans tache pour qu'il soit accepté. Il fallait offrir quelque chose de valeur, autrement ce n'était pas un sacrifice. Alors Jésus était ce sacrifice sans tache. Et parce qu'il était sans tache, eh bien, l'enfer n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité le troisième jour. Et c'est par le sacrifice de Jésus et la grâce de la nouvelle alliance que nous sommes maintenant sanctifiés, pour que personne ne se vante de ses propres œuvres. Donc ce ne sont pas les œuvres qui vont nous amener dans l'éternité, c'est la grâce de Dieu pour chacun de nous. C'est le don de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui et que nous puissions à nouveau communiquer avec lui. Un sacrifice saint, il y a aussi un aspect de la sainteté. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous rend impurs, mais ce qui sort de notre bouche. Par exemple, les mauvaises paroles. Alors qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, de bonnes paroles qui servent à édifier l'autre. C'est pas toujours facile, surtout dans une période où il y a beaucoup de clivages, les pour et les contre. Il faut vraiment beaucoup de sagesse pour savoir comment répondre certaines fois. Et puis, il y a des paroles qui transmettent la peur. Et il nous faut désamorcer ces paroles quand elles viennent vers nous. Je n'ai pas peur de demain, parce que le Seigneur, quoi qu'il arrive, sera avec moi. Et il me soutiendra. Si on continue le texte, on voit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça doit rester quelque chose à notre portée. Est-ce que nous sommes toujours raisonnables? Si par exemple je m'investis totalement pour les œuvres sociales, ou dans mon travail, ou un ministère, et que je délaisse mes devoirs familiaux, je dois me demander si ma motivation de servir est correcte. Cela nous demande aussi l'humilité de reconnaître nos limites. Si je vais au-delà de mes limites corporelles, à long terme, je vais m'épuiser. Il me faut donc planifier mon travail, mais aussi mes temps de repos. Et puis un jour de repos sur sept, c'est la sagesse que Dieu nous a donnée dans sa parole. Nous ne sommes pas au service du sabbat, mais le sabbat est à notre service. Quel sacrifice aujourd'hui? Eh bien, il ne faut pas que je l'oublie celui-là. Il y a le sacrifice de louange. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je peux lire dans Hébreux 13, 15, donc Hébreux chapitre 13, verset 15. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dans la Bible, un des plus grands visionnaires de ce que représentent la louange et l'adoration, eh bien, c'est David. C'est incroyable déjà les révélations qu'il a eues sur Jésus-Christ déjà 1000 ans auparavant. Si on regarde les psaumes, il y en a plein. Et puis quand il partait au combat aussi, il envoyait les chanteurs et les orchestres de louanges en première ligne. Et c'est ainsi qu'il gagnait les batailles. Et je vais vous raconter quelque chose. Dans la louange, il y a vraiment une force. Parce que dans la louange, on reconnaît notre Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous a créés, qui a un plan pour nous, et puis aussi pour la terre, pour tout, pour tout l'univers. Eh bien, un jour, on voulait fêter Noël différemment, enfin c'était une année, il y a longtemps, et puis on s'est dit on va aller en forêt, on va prendre nos instruments, puis on était deux familles, on est parti, et puis voilà, on va chanter des chants de Noël comme ça, et puis on va aussi louer le Seigneur. On arrivait dans cette forêt, et incroyable, il y avait des gens qui avaient eu la même idée que nous. Alors on est allé là-bas, on a vu une petite lueur là-haut, et puis il jouait aussi quelque chose avec la flûte, puis moi j'avais aussi une flûte. Je dis, mais ah. Alors il nous en fait signe de venir aussi. On est allé là-bas, et on a trouvé deux ou trois familles là-bas, autour d'un feu, et puis on se retrouvait là-bas. C'est rigolo parce que nous on avait quoi? On avait du thé, puis pas de biscuits, tandis qu'eux, ils n'avaient pas de thé, mais ils avaient des biscuits. Donc, voyez, c'était bien fait, hein? Un petit clin d'œil de Dieu. Alors, voilà, on a passé un très bon moment ensemble, on a chanté des chants de louange. Les enfants, ils n'arrêtaient pas d'allumer des bougies parce qu'elles s'éteignaient de nouveau, il y avait chaque fois un petit peu de vent. Et puis, voilà, après, on est reparti chez chacun chez soi le soir. Moi, je ne les connaissais même pas, ces gens. Et puis, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'otard. Et nous, on avait le balcon en face de la forêt. Et je peux vous dire, on voyait les arbres qui, les uns après les autres, et ils tombaient. Et c'était des gros arbres comme ça, parce que je suis allé sur place 2 semaines après, et des racines qui devaient faire au moins 2, 3 mètres de largeur. Impressionnant. Sur le chemin, il y avait à un moment, on n'avait pas le droit d'y aller, de toute façon, il y avait des arbres les uns sur les autres comme ça, à un endroit. J'avais calculé à peu près 5 mètres de hauteur. Impressionnant, jamais vu ça. Mais j'avais quelque chose qui me turlupinait. Je sais que je voulais aller voir. où est-ce qu'on avait loué le Seigneur et qu'on avait passé Noël ensemble avec ses familles. Ça m'intéressait de savoir dans quel état ça se trouvait. On arrivait sur place et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, c'était intact. Par contre, tout autour, il y avait un grand champ et puis les arbres là, ils étaient, je crois qu'il devait y avoir au moins une dizaine de gros arbres comme ça qui étaient complètement déracinés. Impressionnant. Pour moi, c'était un message que j'ai jamais oublié de toute ma vie. C'est que là où il y a la louange, il y a la protection de Dieu. Et encore une fois, je peux vous dire, je ne sais pas si vous, qui c'est qui connaît Pierre Béchir? Voilà, quelques-uns connaissent. J'ai amené des CD, il nous a offert ses CD pour les enfants de Moldavie. Donc tout ce que vous mettez après dans la caisse, ce sera pour lui. Alors, c'est incroyable que quand il y a eu toutes ces inondations, là en bas près du lac, vous voyez aussi à peu près, près de Marin, par là-bas, Cressier exactement, eh bien, en face de lui, toute la rayée de maisons, il y avait des inondations partout, dans la cave, partout. Et puis, à côté de chez lui aussi, inondé partout. Mais lui, qui a des dizaines de milliers de francs de matériel dans sa cave en bas, il n'a rien eu. Et sa vocation à lui, c'est de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Et quand on écoute les paroles de ces chants, ben, je trouve qu'il y a une profondeur dedans. Ça vaut vraiment la peine de d'écouter. Enfin, juste pour vous dire comme ça, la protection qu'il y a dans la louange, et je pense que c'est quelque chose que nous devons peut-être apprendre de pratiquer la louange, pas seulement à l'église, mais aussi à la maison. C'est pas quelque chose que, franchement, moi je le faisais beaucoup avant, mais j'apprends avec ma femme, de temps en temps, quitte à prendre un petit livre de chants et puis de chanter des chants de louange ensemble. Voilà, j'arrête sur ça maintenant. La persévérance dans le sacrifice. Nous sommes presque tous engagés dans un projet de vie ou quelque chose qui nous tient à cœur. Mais si nous voulons récolter les fruits en temps voulu, eh bien, il nous faut persévérer. Alors, une qualité très proche de la persévérance, eh bien, c'est la fidélité. La persévérance et la fidélité viennent de notre Père Céleste qui nous donne la vision. Si nous n'avons pas une vision claire ou de motivation pour ce que nous voulons entreprendre, eh bien, la persévérance ne sera pas au rendez-vous. Et je crois que nous sommes presque tous engagés dans un projet de vie ou quelque chose qui nous tient à cœur. Et vous remarquez vous-même, il nous faut cette persévérance. Alors, comment nourrir sa vision? Eh bien, en la partageant avec les autres. Partager avec les autres sa vision, et puis aussi la partager avec Dieu dans la prière, pour qu'il nous donne aussi des indications. C'est grâce à la fidélité et à la persévérance de milliers de bénévoles ici en Suisse et dans les pays de l'Est que nous pouvons distribuer des milliers de paquets de Noël, des centaines de tonnes de vêtements, de paquets alimentaires. Bon, les paquets alimentaires, nous achetons sur place. Eh bien, je peux vous dire que cette récolte des paquets de Noël, cette année 2000, enfin l'année juste avant, 2021, en novembre, je peux vous le dire, au nom des quatre organisations, on était vraiment étonnés, abasourdis, de voir combien de paquets de Noël vous avez amenés. Nous sommes vraiment très touchés que malgré les conditions sanitaires et tout ce qu'il y avait, déjà l'année avant, la même chose, il y a une telle participation. Si bien que nous avons pu confectionner, enfin vous tous ensemble, 124 800 paquets de Noël, les quatre organisations. C'est inimaginable, quelque chose comme ça. Ça veut dire que beaucoup de gens se sont dit, non, laissons faire de côté ça, mais non, allons, on va faire ces paquets de Noël. Ben, je trouve que c'est vraiment fantastique. Vous voyez que si nous restons fidèles dans les petites choses, Dieu nous donne des grandes choses à accomplir. Et j'étais distribué ces paquets de Noël en Moldavie, pour les enfants de Moldavie, mais aussi en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, là où il y a encore eu des combats. En novembre, il y a eu, à la mi-novembre 2021, il y a un village qui a été rasé. Mais ça, on n'a pas beaucoup entendu. On a été visiter des familles qui ont tout perdu, leur maison et tout. Donc Dieu nous donnera des grandes choses à accomplir. Et puis un jour, c'est Dieu qui vous dira, qui nous dira, assieds-toi, fidèle serviteur. C'est moi qui vais te servir maintenant. Je propose maintenant de faire un petit temps de silence et de réfléchir à ce que nous avons entendu et qu'est-ce que nous pouvons prendre avec nous pour la semaine qui va nous fortifier, puis pour ces prochaines semaines. Seigneur Dieu, je te demande par ton esprit de nous rappeler ta parole la semaine qui vient. Que ta parole soit vie en nous. Montre-nous comment nous pouvons être les sacrifices vivants qui amènent la vie autour de nous. Montre-nous comment nous pouvons désamorcer les paroles négatives qui se mettent autour de nous et parfois aussi dans notre bouche. Merci Seigneur de nous rappeler tout cela en temps voulu, par ton Esprit Saint. Amen.